Merci. La Bible n'appartient à aucune religion. C'est la parole de Dieu pour tous les hommes, quelle que soit leur race, la couleur de leur peau, leur rang social, pauvre ou riche, c'est la parole de Dieu pour tous. Et nous allons ouvrir ce livre saint dans le livre des psaumes, et nous allons lire au psaume 146 quelques versets, à partir du verset 3. La Bible, c'est le livre le plus traduit dans le monde, c'est le livre le plus répandu, c'est le livre, lorsque l'on reçoit son message, transforme notre vie. Devenir un chrétien, pas de nom, mais de cœur, c'est faire une rencontre personnelle avec Jésus, et cette rencontre personnelle a un impact sur toute la suite de notre vie, telle sorte qu'un certain homme de la Bible, nommé Saul de Tarse, disait et écrivait « Autrefois, j'étais, mais maintenant, depuis sa rencontre avec le Christ, sa vie a été complètement bouleversée. » Et c'est là le désir profond de nos cœurs, c'est que vous puissiez découvrir qui est Jésus, vous attacher à lui, et je vous promets, parce que je sais que la Bible est vraie, que si vous vous attachez au Christ, votre vie va être bouleversée. Oui ou non, frères et sœurs? C'est notre expérience de la plupart d'entre nous, et vous pouvez la faire vous aussi. Alors on lit dans le psaume 146, verset 3, « Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre, et ce même jour leurs desseins périssent. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel son Dieu. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, il garde la fidélité à toujours, que son nom soit béni. » Deuxième lecture, dans le livre du prophète Jérémie, nous lisons au chapitre 17, Jérémie, chapitre 17, et au verset 5. Alors, c'est pas moi qui parle, mais c'est Dieu au travers de sa parole. « Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert, il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur du jour quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Il ne cesse de porter du fruit. Amen. » En 1905, ça remonte quand même à quelques années en arrière, nous n'étions pas là. Mais l'histoire nous apprend qu'un des ministres du président Félix Faure a déclaré dans un discours « Si florissante que soit l'industrie automobile » en 1905, hein, « si florissante que soit l'industrie automobile, ce serait une grande illusion de croire qu'elle va continuer sa marche ascendante. » Ça ne vous fait pas sourire? Il y a de quoi sourire quand on sait quel développement l'industrie automobile continue de connaître. En 1905, les propriétaires de véhicules automobiles étaient, pour la France, 21 525. Un siècle après, un bon siècle après, 1800 fois plus. Les progrès. Ce pauvre ministre du président Félix Faure était certainement sincère quand il a dit cela, mais il s'est planté l'œil, enfin le doigt dans l'œil jusqu'au coude, comme on dit. Hein. La sincérité, c'est bien, mais ce n'est pas toujours la vérité. En 1848, c'est encore plus loin, Eugénie Niboyer, écrivaine et journaliste française, réclamait le droit des votes des femmes. Elle créa le journal La Voix des Femmes, dans lequel elle a écrit « Quand nous voterons, nous les femmes, moi je dis nous, je parle à sa place, quand nous voterons, il n'y aura plus de guerre, plus d'enfants martyrs, plus de filles séduites, plus de femmes abandonnées. Hélas, mille fois hélas, il n'en est pas ainsi. Si les femmes ont voté pour la première fois le 29 avril 1945, nous savons que les mêmes problèmes subsistent et qu'ils s'amplifient même. C'est bien, certainement qu'elle était sincère, qu'elle y croyait, mais elle aussi s'est plantée le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Elle s'est trompée. La sincérité, c'est bien, mais ça ne suffit pas. L'important, c'est d'avoir la sincérité, mais d'être aussi dans la vérité. Car c'est la vérité divine, qui a la puissance de transformer notre vie. Dans un autre registre, on pourrait parler des promesses électorales. Et l'expression « promesse électorale » en elle-même dit bien ce qu'elle veut dire. Avant les élections, on a le droit aux promesses, mais après les élections, c'est autre chose. Quelqu'un a dit « ce sont de larges tartines de confiture, mais sous la confiture, il n'y a pas de pain ». Une manière de s'exprimer. Que dit la Bible? Qu'avons-nous lu? Nous avons lu ceci. Ne mettez pas votre confiance dans les grands de ce monde. Ils ne sont que des hommes. Ils ne peuvent pas sauver. Certes, la Bible nous enseigne de respecter les autorités. La Bible nous enseigne d'être soumis aux autorités. Elle nous enseigne aussi de prier pour les autorités, afin que nous vivions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Mais la Bible nous invite à considérer que si nous nous fions dans les hommes, nous serons déçus. Mais si on se confie en Dieu, on n'est pas déçus. N'est-ce pas vrai, frères et sœurs? Car Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Voici ce que déclare l'Éternel. Maudit soit l'homme qui compte sur des hommes et qui fait des moyens humains la source de sa force, et qui détourne son cœur de l'Éternel. Or, l'Écriture nous invite à respecter les hommes, les autorités, je le répète, mais à nous confier en Dieu, parce que c'est lui et lui seul qui peut véritablement répondre à tous nos besoins. Toutes les décisions humanistes, philosophiques, politiques, idéologiques, nous décevront, mais jamais la parole de notre Dieu. Jamais ces déclarations. Quelqu'un a dit que l'espérance est à la vie ce que l'oxygène est aux poumons. Sans oxygène, vous ne vivrez pas longtemps. C'est indispensable. Et psychologiquement, intérieurement, l'être humain a besoin d'avoir une espérance. Et ceux qui n'ont plus d'espérance, aucune espérance, malheureusement, quelquefois, tentent de mettre fin à leur jour. Une nécessité psychologique indispensable à notre être intérieur de vivre avec une espérance. Or, nous, notre espérance, elle s'appuie non sur les hommes qui sont faillibles, qui sont fragiles, qui aujourd'hui sont là et qui demain ne sont plus, mais elle s'appuie sur notre Dieu qui est la vérité, qui veille sur sa parole, et cette parole demeure éternellement. Alléluia. Pour que notre espérance ne se transforme pas en désespérance, il faut qu'elle ait un fondement solide. Il faut qu'elle ait un fondement inébranlable, et le seul qui est inébranlable et dont la parole défie les siècles, c'est notre Dieu. Et nous pouvons nous confier, vous pouvez vous confier en lui de tout votre cœur. La Bible appelle notre Dieu le Dieu de l'espérance, et Jésus-Christ est appelé notre glorieuse, notre espérance, et sa parole est la vérité. La Bible est une valeur sûre. Elle porte à notre connaissance des faits réels, authentiques, historiques, qui se sont réellement passés sur notre terre, pour la plupart des événements avant la venue du Christ, mais aussi ensuite durant le ministère du Christ et l'établissement de l'Église au début, après l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Quel est celui parmi nous qui peut dire « Moi, je n'ai jamais menti de ma vie » Qu'il lève la main. Même les enfants ne lèvent pas la main. On a tous péché. Plus ou moins. D'une manière ou d'une autre. On a tous transgressé la loi divine. Personne ne peut dire, moi je suis innocent. Le bon Dieu n'a rien à me reprocher. Je l'ai quelquefois entendu. Quelle illusion. Mais quand on donne sa vie au Christ, alors on ne ment plus. Votre pasteur, il dit Amen. Pourquoi on ne ment plus? Parce qu'on est conscient de ce que dit la parole de Dieu. Et si malheureusement pris dans un piège, quelqu'un était surpris et se met à mentir, il en est malheureux. Aussitôt, il demande pardon à Dieu et il rectifie le tir. Mais on ne pratique plus le mensonge. Parce que la Bible nous dit que Dieu est le Dieu de vérité. Jésus a dit « Je suis la vérité ». Du Saint-Esprit nous le dit que c'est l'Esprit de vérité. Et la parole de Dieu nous dit qu'elle est la vérité. C'est Jésus qui le dit. Donc la vérité, ce n'est pas, comme le dictionnaire Le Larousse nous le dit, oui, en partie, la conformité de ce qu'on dit avec ce qui est. Mais bibliquement, la vérité, c'est plus que la conformité de ce qu'on dit avec ce qui est. La vérité, c'est d'abord ce qui est divin. Et quand on est enfant de Dieu, on ne pratique plus le mensonge. Car on se souvient de ce que Jésus a dit à ses contemporains. Vous avez pour père le diable, qui est le menteur et le père du mensonge. On peut se fier à la parole de Dieu. Il est le Dieu de vérité. Et l'Écriture nous met en garde au sujet d'une confiance mal placée. L'Écriture nous dit, les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un homme qui se confie dans ses richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez déjà essayé de faire passer un chameau par le trou d'une aiguille? Et c'est bien le texte original, une aiguille dont les femmes se servent pour coudre, hein? Quelquefois, ma femme m'a dit, tiens, peux-tu me passer le fil, alors? C'est pas toujours facile, hein? Il est plus facile, dit Jésus, de faire passer un chameau par le trou d'une aiguille qu'à un homme riche qui se confie dans ses richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Et le Seigneur emploie ici une image pour marquer notre esprit, une image choc, pour nous faire comprendre qu'on ne peut absolument pas acheter sa place au ciel. Ni avec son argent, ni avec ses œuvres, ni avec ses mérites, ni avec ses souffrances, la place au ciel est réservée à ceux qui sont conscients qu'ils ne peuvent pas mériter la vie éternelle, mais qui ont compris que Jésus, en offrant sa vie sur la croix, l'a mérité pour eux. Voilà l'évangile. Il y a des riches, même des chrétiens quelquefois qui sont riches, mais ces gens-là ne se confient pas dans leur richesse pour espérer entrer en paradis. Une fois, je faisais une visite chez une dame qui venait depuis peu à l'une de nos réunions. Et à la fin de la visite, elle me dit, « Monsieur le pasteur, je vous dois combien ?» Je dis, « Rien du tout. Rien du tout, c'est gratuit. » Jésus a dit à ses disciples, « Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. » « Oui, mais enfin, vous avez une famille, il faut bien que vous viviez. Ne vous inquiétez pas, je suis salarié de l'Église, j'ai mon salaire mensuel, ça suffit, c'est tout. » Elle voulait à tout prix. J'ai tenu bon. Je n'ai jamais revu aux réunions. Parce que quand on paye, voilà, on a plus ou moins. Hein? Mais avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. Avec Dieu, ce n'est jamais moyennant finance. Avec Dieu, c'est moyennant la foi. C'est-à-dire moyennant la confiance dans la personne et dans l'œuvre du Seigneur. Steve Jobs, entrepreneur, inventeur aux USA, qualifié de visionnaire, fut le pionnier de l'ordinateur personnel, du baladeur numérique, du smartphone et de la tablette tactile. Il est mort le 5 octobre 2011 à 56 ans d'un cancer pancréatique. Avec Bill Gates, Steve Jobs est à l'origine de l'histoire de la révolution micro-informatique. Cet homme a la fortune considérable, dira sur son lit d'hôpital, je me rends compte que tous les éloges, sur son lit d'hôpital, hein, je me rends compte que tous les éloges et toutes les richesses dont j'étais si fier ont été transformés en quelque chose d'insignifiant devant la mort imminente. Quand dans l'obscurité de ma chambre, je regarde les voyants verts de l'équipement de la respiration artificielle et que j'entends le bourdonnement de la machine, je peux sentir le souffle de la mort qui m'attend. C'est seulement maintenant, a dit cet homme, immensément riche. C'est seulement maintenant, aux portes de la mort, de l'éternité, que je comprends que nous devons poursuivre d'autres objectifs que la richesse. C'est bien dommage de s'en rendre compte aux portes de l'éternité. Que peut faire l'argent et les biens matériels devant la mort? Que peut faire l'argent quand un foyer se brise? Que peut faire l'argent quand la dépression vous terrasse? Que peut faire l'argent dans les différents problèmes que l'être humain peut rencontrer? Non, ce n'est pas l'argent qui peut nous sauver, mais c'est le Dieu qui est dans le ciel, Jésus-Christ, notre bien-aimé Sauveur. On peut très bien ne pas avoir beaucoup d'argent, mais néanmoins être attaché à l'argent. Et le Seigneur Jésus nous dit que l'amour de l'argent, c'est la ruine de tous les problèmes. Voilà ce que le Seigneur nous dit dans sa parole. L'amour de l'argent. L'argent, disait quelqu'un, c'est la fausse monnaie du bonheur. Non, le bonheur ne dépend pas de ce que nous pouvons posséder, mais le bonheur, le vrai bonheur, dépend de notre relation avec le Seigneur. Chers amis, nous avons quelque chose de plus précieux à vous offrir que de l'argent. Nous avons Jésus-Christ, celui qui a dit qu'il pourvoirait à tous nos besoins. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, selon la richesse de sa grâce, avec gloire en Jésus-Christ. La Bible dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai pas. Dans le texte original, il y a une double négation qui accentue la promesse de Dieu. Je ne te délaisserai certainement pas. Je ne t'abandonnerai certainement pas. Et nous savons que Dieu est fidèle, on peut lui faire confiance. La Bible dit, ayez foi en Dieu. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui détourne son cœur de l'Éternel. Mais béni soit l'homme qui se confie dans le Seigneur. Il est comme un arbre dont les racines s'étendent auprès du courant d'eau. Gardons-nous de nous confier en nous-mêmes, dans notre force de caractère, dans notre volonté, dans notre courage, dans notre détermination. J'entends quelquefois, il faut avoir confiance en soi. J'entends quelquefois même des sportifs dire, j'ai confiance en moi. Ouh. Vous connaissez, mes frères et sœurs, un homme de la Bible qui avait confiance en lui. Il dira à Jésus, un de ses disciples, Pierre, alors que Jésus vient d'annoncer sa mort, « Oh, mais tous peuvent t'abandonner. Hein. S'il n'en reste qu'un, ce sera moi. Quand bien même il me faudrait aller à la mort, je serai là. » C'est ce qu'il a fait. Ah, il était sincère quand il l'a dit. Mais il a compté sur lui-même, sur ses forces de caractère, sur sa volonté. Jésus le prévient. Et nous savons qu'il n'a pas fallu longtemps pour que dans une femme, il renie son maître et qu'il le renie aussi trois fois. Quand on lui a dit, toi aussi tu faisais partie des disciples du Christ, là. D'ailleurs ton langage, ton accent galiléen te fait reconnaître. Hein. Ah non, je ne connais pas Jésus. Je ne connais pas. L'évangile nous dit qu'il a même fait des imprécations. Vous savez, comme quelquefois des gens vous disent... que le bon Dieu me punisse si je mens. Souvent, c'est pour faire avaler un mensonge de plus. Hein. Il a fait des imprécations. Il a réclamé sur lui la malédiction de Dieu s'il trahissait. Or, c'est ce qu'il a fait. Mais après, il a été malheureux comme les pierres. Il en a pleuré amèrement. Il a demandé pardon au Seigneur. Et le Seigneur, qui était un Dieu de grâce, lui a fait miséricorde. Amen. Il lui a pardonné. Que son nom soit béni. Quelqu'un qui met sa confiance en lui-même, dit la Bible, est un insensé. Mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce, renouvelle ses forces, n'est pas confus, il est béni, il est heureux. Ça vaut vraiment la peine de se confier dans le Seigneur. La Bible dit encore, « Prends ton plaisir en Dieu, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. » Mets en lui ta confiance, et il agira. Il sait tellement bien comment faire, la manière dont il agit, mais aussi le temps où il agit, mais il n'abandonne jamais celui qui se confie en lui. Une version a traduit, « Mets en lui ta confiance et il fera le nécessaire. » Une autre a traduit, « Mets en lui ta confiance et il travaillera pour toi. » Chers amis, quand on prie Dieu, quand on se confie en Dieu, ce n'est pas en vain, nous l'avons expérimenté pour la plupart d'entre nous. Il travaillera pour toi. Cette notion de travail me fait penser à un texte du prophète Ésaïe au chapitre 53. Quand il est dit du Messie, il verra le fruit du travail de son âme. En principe, on travaille avec ses mains. D'ailleurs, les mains sont le symbole du travail. Mais là, il est question du travail de son âme. Il verra le fruit du travail de son âme et sera satisfait. Mon serviteur, le vrai juste, rendra juste un grand nombre de gens parce qu'il s'est chargé de leurs péchés. Ceci nous amène à ce qui est le centre même du message de l'Évangile, la croix de Jésus. Il n'y a pas de croix ici. Nous n'avons pas de crucifix chez nous. Mais le message de la croix, pour nous, c'est le centre même du cœur de l'Évangile. Qu'a-t-il donc fait sur la croix? Et pourquoi fut-il cloué sur une croix? Il était innocent. Pilate l'a reconnu publiquement. Et malgré qu'il ait reconnu l'innocence totale de Jésus, il l'a quand même lâchement livré à ses bourreaux pour qu'il soit crucifié. Oh, il s'en est lavé les mains publiquement, mais il ne s'est pas lavé la conscience devant Dieu. Et il devra en rendre compte. Pourquoi donc Jésus a-t-il été crucifié? Quel mal a-t-il fait? Mais rien. Il n'a fait que du bien. Il allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant, consolant, restaurant, délivrant, pardonnant, apportant la joie et une réelle espérance. Qu'a-t-il donc fait sur la croix? Eh bien, la Bible nous dit qu'il a porté nos péchés volontairement. Il a dit au cours de sa vie par 5 fois, « Je donne ma vie, personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. » Quand on est venu arrêter Jésus avec tous ces gens, avec leur tête, le traître Judas, qui l'a trahi pour 30 pièces d'argent, le prix d'un esclave, c'est toute la valeur qu'il attribue à Jésus. Ils étaient armés d'épées, de bâtons, comme s'ils allaient à la rencontre d'un brigand de grand chemin. Ils se sont saisis de lui, mais il s'est laissé arrêter. Qui cherchez-vous? Jésus, c'est moi. L'apôtre Pierre, qui aimait son maître, a voulu le défendre. Il a dégainé son épée. Et Jésus lui dit, remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? Jésus a choisi délibérément d'offrir sa vie parce que nous avons tous péché, parce que nos péchés, c'est notre ennemi numéro un, c'est ce qui nous condamne, c'est ce qui nous paie, c'est ce qui nous emmène en enfer. Mais Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son fils Jésus. Et Jésus lui-même, volontairement, par amour pour nous faire échapper à la condamnation, a offert sa vie en sacrifice. Jésus s'est offert volontairement. Il s'est chargé de nos péchés pour nous en délivrer. Il a expié tous nos péchés, ce que nous ne pouvions absolument pas faire par son sang répandu. Il a subi le châtiment que nous méritons. Il a accompli la volonté de Dieu. D'ailleurs, une de ces 7 paroles qu'il a prononcées sur la croix, c'est celle-ci. Tout est accompli. Et le mot original signifie aussi tout est payé. On n'a rien à payer. Le salut est gratuit. Parce que Jésus a payé pour nous. Il a satisfait la justice divine. Il y avait un dilemme pour Dieu. Il nous a créés pour vivre en relation avec lui. Nous avons malheureusement brisé cette relation par nos péchés. Mais Dieu n'a jamais cessé de nous aimer. quoi que nous ayons fait, même celui qui a fait les pires choses, Dieu l'aime parce que c'est sa créature et Dieu voulait le sauver lui aussi. Mais Dieu avait un dilemme, comme il ne pouvait pas faire entrer dans son paradis des pécheurs, là où la pureté est absolue. Mais ce dilemme a été résolu. Jésus a pris notre place. Il a satisfait la justice divine. Il a payé pour chacun d'entre nous. Il a prouvé, démontré l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui fasse confiance à lui. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et béni soit celui qui se confie en l'Éternel, en Jésus le Fils éternel de Dieu. La Bible dit « Je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » L'avenir est bien sombre pour notre monde aujourd'hui, mais pour celui qui s'est attaché au Christ, c'est un avenir glorieux qui nous est préparé. L'Évangile est une bonne nouvelle. Confiez-vous en Dieu, en sa parole, elle est la vérité. Confiez-vous en la fidélité de Dieu, elle est sans faille. Confiez-vous dans son amour, il est sans pareil. Sa puissance est sans limite, sa grâce est infinie. Ses promesses sont certaines et véritables, sa bonté a les dimensions du ciel. J'aime cette version. La bonté de Dieu a les dimensions du ciel. Vous avez déjà mesuré le ciel ? Non, on ne peut pas le mesurer. La bonté de Dieu pour toi, mon ami, qui que tu sois, quel que soit ton passé, quoi que tu aies fait, la bonté de Dieu pour toi, elle est sans limite. Et le Seigneur t'invite tout simplement à te tourner vers lui avec confiance, à remettre ton sort entre ses mains. Le roi David, qui a expérimenté la grâce de Dieu, disait « Moi, j'ai confiance en ta bonté. La joie remplit mon cœur. À cause de ton grand salut, je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. » Amen. Chers amis, je prêche l'Évangile parce que je le crois. Je prêche l'Évangile parce que par la grâce de Dieu, j'en ai expérimenté l'efficacité, la puissance. Je prêche l'Évangile parce que je suis convaincu que le Dieu de la Bible est toujours le même aujourd'hui. Je prêche l'Évangile parce que Jésus, qui est mort sur une croix, est réellement et glorieusement ressuscité. Et la Bible dit que c'est pour cela, parce qu'il est toujours vivant, qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Lui, Jésus, qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jésus, qui a dit « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Jésus, dont l'apôtre Pierre dira « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous puissions être sauvés. » Le chemin du salut, c'est de reconnaître Jésus comme étant le seul sauveur. Le chemin du salut, c'est de venir sincèrement, de tout son cœur, avec vérité, devant le Seigneur et de lui dire « Je reconnais que je suis un pécheur, que j'ai transgressé ta parole, tes commandements. Je suis loin d'être innocent. » Le chemin du salut, c'est de dire « Seigneur, j'ai confiance dans l'œuvre de Jésus qui a payé pour moi à la croix, qui est mort à ma place. Je te donne ma vie. Je m'engage à te suivre. Si vous faites ce pas-là, je l'ai fait il y a plus de 60 ans. Croyez-moi, je suis heureux de l'avoir fait. » Quel bonheur de connaître Jésus. On chantait autrefois « Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. » Amen. Amis, cette expérience est aussi pour vous, car Dieu vous aime autant que nous. Dieu ne fait pas de favoritisme. Nous sommes tous ses créatures et sa grâce, elle est pour chacun sans exception.
Nous espérons que vous avez été encouragés par ce message. Pour plus de renseignements sur notre Église ou découvrir d'autres messages de l'Évangile, n'hésitez pas à visiter notre site églisecielouvert.com et à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Nous vous invitons également à nous retrouver chaque semaine à Saint-Étienne-du-Rouvray pour nos discussions.